Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigika Foba.
Le pays fait face à une recrudescence d'insécurité depuis un certain temps, surtout dans la capitale. Et la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre reste un enjeu majeur dans la lutte contre ce phénomène. Nos invités pour débattre de ce sujet, El Hadj Youssouf Meiga, contrôleur général de police, chargé des armées et des fabricants d'armes au secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Monsieur El Hadj Ousmane Cornéo, consultant sur la question d'armes, Monsieur Mamadou Djouara du Forum des organisations de la société civile et Monsieur Alassane Kone, vice-président de l'association des fabricants d'armes. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Face à l'insécurité grandissante dans la capitale et sa périphérie, le gouvernement a mobilisé un millier d'éléments de forces de sécurité et de défense pour faire face à la situation. Des dizaines de suspects ont été interpellés et plusieurs dizaines de pistolets automatiques, des fusils ainsi que des munitions ont ici été saisis. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Meiga. Qu'est-ce qui est à l'origine de la prolifération des armes à Bamako?
Merci. Bonjour Konaté et Togola, excusez. Et la problématique de la prolifération des armes légères et de petits calibres ne date pas en fait d'aujourd'hui. Et depuis la rébellion de 1991, le Mali a un peu perdu le contrôle de la circulation des armes. Cette rébellion a engendré une entrée massive et une circulation, une très grande circulation des armes dans le territoire. Et en 91, peut-être vous rappelez certainement, il y a eu également les événements qu'on appelle les événements de 91, à la suite de quels événements, pratiquement tous les commissariats de Bamako ont été attaqués par des bandits, qu'on va appeler comme ça, qui ont pillé les commissariats et qui ont emporté toutes les armes qui se sont déversées dans la nature. Mais également, il y a le phénomène de crise dans les pays limitrophes, notamment la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria ou la Guinée à côté. À l'issue ou à la fin de ces crises, généralement, beaucoup d'armes se sont déversées sur notre territoire. Donc, vous savez chacun que on n'ignore pas la porosité des frontières. D'accord. Également, il y a une autre problématique, c'est que le Mali est un pays de pratiques ancestrales où les fabricants d'armes artisanales ont toujours existé. Et ces fabricants d'armes artisanales également ont alimenté le marché urbain et rural de plusieurs sortes d'armes, de plusieurs armes. Donc au Mali, d'après une statistique de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération des armes légères, il y a près de 343 fabricants d'armes artisanales, dont 67 à Bamako seulement. Donc, et tout cela est également prolongé et entretenu par la crise multidimensionnelle que notre pays connaît depuis 2012.
D'accord.
Également, oui. Vous m'excusez.
Oui, allez-y.
En 2012, il y a eu l'affrontement qu'on appelle Béret Rouge, Béret Vert. Il y a le camp de Kati et le camp des parachutistes de Jigoroni qui ont été également pillés et beaucoup d'armes continuent à circuler à travers le pays.
D'accord. Merci. Et vous, M. Djouara, comment vous expliquez cette situation?
Alors, merci déjà. Je pense que mon prédécesseur a mis le pied dans le plat en décrivant un peu que le problème de la circulation des armes ne date pas d'aujourd'hui, qu'à chaque fois que ce pays a trébuché, les armes ont circulé et après on n'a jamais été capable de les récupérer, ni même souvent de les situer. Je crois qu'il y a toute une liste qui n'a pas voulu épuiser, mais j'ajouterais simplement que les derniers événements qui se sont développés, quand je dis dernier, je parle de 2012 à nos jours, ont apporté une dimension largement supplémentaire. parce que on a, je vais dire, près de la moitié des réserves d'armes de l'armée malienne qui sont parties. Il y a eu les événements du 23 mai 2006 qui ont vu l'enlèvement de toutes les armes des bases de Kidal, de Menaka et d'autres localités emportées par les rebelles. Après la signature de l'accord de 2006, on n'a jamais parlé du sort de ces armes. Après ça, en 2012, on a vu les armes abandonnées à Gao, Tombouctou, Kidal, d'une manière ou d'une autre, qui ont été récupérées. Mais il y a également beaucoup d'armes qui ont été importées, et donc de différents côtés. Maintenant, peut-être ce que moi j'allais dire pour ajouter rapidement ces deux éléments qui me semblent importants. Le premier élément, c'est l'aspect communautaire. Et il a souligné le cas des conflits dans nos pays voisins. Les pays frontaliers du Mali qui ont connu des crises ou qui voisinent avec des pays qui ont connu des crises constituent des poches de transit pour la circulation des armes chez nous. Parce que très généralement, vous allez trouver que de part et d'autre de la frontière, c'est la même communauté qui n'est séparée que par une frontière artificielle en quelque sorte. Et cette communauté, elle se déplace dans son aire de vie, peu importe que ce soit Mali, Niger ou bien Mali, Burkina ou Mali, Mauritanie ou Mali, Algérie d'ailleurs. Et donc, chacun va prendre les moyens dont il a besoin, là où il estime pouvoir le trouver plus facilement, pour venir répondre à son besoin de sécurité, là où il pense que c'est menacé. Donc, cette circulation des armes fait que ça passe plus par les axes de mobilité communautaire, plus difficiles à percevoir et à maîtriser par les forces de sécurité. Généralement, quand on dit dispositif sécuritaire, on pense à des positions militaires et à des positions sécuritaires. Sauf que ces positions militaires et sécuritaires auront énormément de mal à intercepter quelque chose qui passe par les fils des mouvements des communautés. Voyez-vous, quand par exemple un Sonoufo de Sikasso ou bien de Zegua se déplace pour aller à Korogo, bon, c'est la chose la plus normale. Voyez-vous, donc si on doit porter le soupçon sur tout ça et arrêter chaque cas pour fouiller là-dedans, ça va demander énormément d'effectifs, énormément de temps et c'est difficile à maîtriser. Mais cela pourtant est la voie par laquelle les armes circulent de façon considérable et arrivent jusqu'à Bamako ici. Mmh, il y a tout un trafic qui est construit autour de ça. On a vu que après les événements qui ont eu lieu, il a parlé du cas Béret Rouge, Béret Vert. Mais juste après le cas Béret Rouge, Béret Vert, quand on a fait miroiter le tableau du DDR, on a vu tout un remis-ménage au niveau des camps militaires, où souvent des militaires ou parents de militaires créaient carrément des réseaux où on permettait certaines personnes qui voulaient aller au DDR partaient chercher des armes pour pouvoir se rendre éligibles, parce que des armes ont été soustraites aux garnisons militaires qui n'ont jamais été retournées et qui sont dans la circulation qu'on a besoin de récupérer.
D'accord. Alors, M. Cornéo, M. Diora vient de nous parler d'un aspect, l'aspect communautaire. Mais selon vous, quels sont les facteurs qui accentuent le phénomène de la prolifération des armes?
Oui, merci, madame. Je crois que j'ai un autre avis quand les gens parlent de la circulation des armes légères. Avant, on parlait de circulation. Maintenant, il faut dire accumulation et d'armes légères. Parce qu'avant, il y avait une circulation parce que toutes les armes venaient du sud, transitaient vers Bamako, allaient s'accumuler vers le nord, où ces armes servaient à protéger des activités d'économie criminelle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul centimètre carré au Mali où il n'y a pas d'armes. Donc ça veut dire que ce n'est plus la circulation d'armes, c'est l'accumulation d'armes au sein des communautés, au niveau des villes, et ces armes, aujourd'hui, enveniment les conflits. Des conflits qui avant se réglaient à coups de bâton ou sous le vestibule. Mm-hmm. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est la qualité et la perfection de l'arme que vous possédez. Donc, il fait que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la situation du Mali ne peut se résoudre que par la diminution de cette accumulation d'armes. Il faut absolument que les armes cessent d'être auprès et aux mains des populations parce qu'elles modifient complètement les rapports humains, les rapports communautaires, la résolution même des relations personnelles, parce que dans un village aujourd'hui, les terroristes n'attaquent que ceux qui n'ont pas des armes. Avant d'attaquer, on s'informe d'abord quel type d'arme il a. Est-ce que c'est vraiment une arme perfectionnée plus que celle que j'ai ou bien juste une arme de fabrication traditionnelle? Alors là, on se décide de l'attaquer ou pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le phénomène de l'accumulation des armes au Mali est un phénomène très, très crucial auquel le gouvernement doit faire face.
Alors, M. Maïga nous a parlé de 343 fabricants d'armes au Mali.
Au Mali.
D'accord. Et si vous pouvez revenir sur les chiffres à Bamako.
À Bamako, 67
fabricants d'armes. Et quel rôle l'association des fabricants d'armes a-t-elle joué?
Oui, je crois quand même que ce répertoire, c'est moi-même qui ai fait cette étude-là, où on a l'ensemble de 343 fabricants d'armes, dont Bamako est la deuxième où il y a le plus d'armes, sinon la région de Mopti. Qui a 112 artisans d'armes, et la région, parce que ce sont mes cousins, les Dogons, qui sont en majorité, qui fabriquent ces armes-là. Mais il ne faut pas s'en faire, parce que la fabrication artisanale d'armes est plus ancienne que le Mali. La colonisation même a trouvé qu'on fabriquait déjà des armes. Donc ça veut dire que ce n'est pas la fabrication artisanale d'armes qui est problème, c'est maintenant ne pas pouvoir contrôler cette fabrication qui est aujourd'hui un problème. Parce que c'est une activité artisanale comme toute autre activité artisanale qu'il faut absolument encadrer. Et les textes, on va revenir sur les textes sont tout à fait clairs là-dessus. On n'interdit pas la fabrication, mais on se demande de contrôler la fabrication avec l'association des fabricants d'armes.
D'accord. De ce pas, nous allons demander à M. Koné de nous édifier sur le contrôle de la fabrication des armes.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je pense qu'avec le contrôle de M. Cornu, M. Maïga de la Cour de M. Très Permanent, la commission depuis sa création en jour, nous sommes membres et nous travaillons avec la commission pour diminuer cette fabrication et pour faire tout pour que les gens rentrent dans les normes, que ça soit fait dans les normes. Et qui a terminé même avec l'appui de la Commission nationale et du consultant M. Cornu, on a pu faire ce recensement-là. Et aujourd'hui, il y a des fabricants d'armes qui ont des expériences de fabrication d'armes. Ils sont conformes aux lois en vigueur. Je pense que ça, c'est l'un des moyens qui peut nous permettre de contrôler et d'aider à diminuer même la fabrication. C'est ce que je veux dire pour la première phase. Merci.
D'accord. Oui, M. Diora, vous voulez réagir par rapport à cela?
Non, pas particulièrement.
D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, M. Maïga, M. Koné vient de nous parler du contrôle de ces fabrications d'armes-là. Mais qu'est-ce que vous faites en collaboration avec eux,
oui,
si je ne puisse me le permettre, vu qu'il vient de mentionner leur collaboration, oui, avec vous, pour diminuer ce chiffre-là?
Non, en fait, c'est pas une collaboration. Ils font même partie de la Commission nationale.
OK.
Nous, c'est le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères, qui est en quelque sorte le bras opérationnel de la Commission nationale. La Commission nationale elle-même est constituée de 5 membres de la société civile, 5 associations de la société civile, dont l'association des fabricants d'armes artisanales. Et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en est le président. Parce que la commission était logée à la présidence et présentement, la commission est dirigée par le ministre. C'est revenu au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc avec les fabricants d'armes artisanales, et nous sommes chargés de, parce qu'ils ont des autorisations de fabriquer ces armes artisanales. Donc On les a amenés à se constituer en association d'abord. Et puis maintenant, ils sont connus, les différents ateliers sont connus. Et on a procédé au système de marquage comme on fait au niveau des armes des forces de défense et de sécurité. À ce que chaque arme fabriquée par eux puisse être marquée. La date de fabrication, le modèle de l'arme, la personne à laquelle l'arme est vendue. Donc ils tiennent des registres présentement.
Mais est-ce que ces registres-là sont respectés?
Ces registres sont respectés dans une certaine mesure, parce qu'on est à un début. On est à un début et vous savez, les débuts sont toujours difficiles. Donc eux-mêmes, ils sont en train d'être formés. Et le consultant qui est M. Cognon a déjà fait une formation qui il y a deux à trois mois de cela pour les fabricants d'armes artisanales, pour les amener à connaître la nouvelle procédure qui va être adoptée en vue de canaliser leur activité.
D'accord. Mais n'est-il pas paradoxal que l'État autorise la fabrication des armes et veut en même temps lutter contre la prolifération des armes et l'insécurité?
Non, ce n'est pas paradoxal. L'État, qu'est-ce que les textes disent? Qu'on va peut-être largement en venir. On les autorise, mais on dit de contrôler ce que les activités, les fabrications qu'ils font. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont autorisés qu'on laisse et on ne suit plus le milieu. Ils sont bien sûr autorisés, mais l'État a le devoir de contrôler leur activité. Maintenant, la prolifération des armes, c'est le plein droit de l'État de lutter contre cette prolifération. Ce n'est pas parce qu'il y a une autorisation ici que même ceux qui fabriquent de façon industrielle les armes le contrôlent. Donc ça, c'est un devoir de l'État et ce n'est pas antinomique que l'État accepte, donne des autorisations et contrôle la prolifération.
D'accord. Alors, M. Koné, diriez-vous que tous les membres de l'association des fabricants d'armes respectent les clauses contenues dans les permis de fabrique? Monsieur Koné, vous êtes avec nous?
Oui. Alors, je suis avec vous.
Oui.
Je vous dis que vous savez, on a, avec l'appui de la commission et du consultant Cognon, après le recensement, maintenant on est à une phase de formation pour le marquage. Le marquage dont le commissaire a parlé déjà est à son stade préliminaire. C'est-à-dire qu'on a fait une formation au cours de laquelle le consultant a montré le modèle de marque qu'on peut mettre sur les armes. Maintenant, il faudrait maintenant former les gens à ce marquage-là. Et quand ce marquage sera fait, on peut dire qu'à ce moment, tout le monde respecte strictement tout ce qui a été dit. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tous les fabricants d'armes qui sont autorisés à fabriquer des armes, dans la mesure du possible, respectent les différentes procédures. Et surtout avec l'appui de la commission qui n'a mélangé aucun effort depuis que nous avons adhéré à la commission à ce jour, chaque fois il y a un rappel. À chaque réunion, il y a des rappels. Il faudra permanent aussi dès son arrivée nous a rapproché et nous amène de lever quelqu'un socialement qui est le commissaire Maïga, à qui on prend chaque fois, auprès de qui on prend chaque fois conseil. Voilà, donc à ce point, je peux dire qu'on est sur des choses qui viennent de commencer et les efforts sont en train d'être faits pour que ça soit effectif.
Alors, M. Diouara, ils sont au niveau préliminaire, si je ne puisse me le permettre. Mm-hmm. Mais avant que ça n'aille loin, est-ce que cette situation peut impacter sur la population?
Bon, je crois que M. Cornion a bien fait de le dire. La fabrication d'armes est plus vieille que le Mali post-colonial. Pour être précis, c'est de tradition dans bien des localités que de fabriquer des armes. Donc la question ne se pose pas à ce niveau, elle se pose au niveau de l'encadrement. Maintenant, où est-ce que ça devient problématique au regard du contexte actuel? C'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des belligérances assez prononcées entre des communautés. Certaines communautés ont plus de fabricants d'armes que d'autres. Ok, c'est une réalité. Donc si l'encadrement n'est pas vigilant, naturellement, ça peut virer. Comme n'importe quel autre. C'est comme par exemple, même les armes détenues par l'armée, s'il n'y a pas un bon encadrement, ces armes peuvent tomber entre les mains de personnes peu recommandables et devenir du coup une source de danger pour les gens. Donc effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a un potentiel de danger, mais je pense encore une fois que le processus en cours qui permet à la commission dont l'association des fabricants est membre de faire un suivi de ces gens, de les former et de les encadrer et de permettre que des registres soient tenus, c'est déjà un début pour pouvoir bien encadrer. Oui. Maintenant, vous aviez posé une question à laquelle je voulais réagir.
Oui, allez-y.
Vous aviez demandé est-ce que, ce n'est pas antinomique.
Paradoxal, que
ces gens-là, que l'État autorise
la fabrication
des armes
et veut lutter contre.
Côté qu'on veut lutter contre. Moi, je pense qu'il y a plutôt là une opportunité à saisir. Parce que vous savez, le Mali est après tout un pays en guerre. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous sommes dans un processus de réflexion nationale pour réformer notre secteur de la sécurité. Au rang des pistes, il y a naturellement la question de la sécurité par les structures privées. Parce que la sécurité a plusieurs degrés et à plusieurs vitesses. Voyez-vous ? Donc aujourd'hui, on a des structures privées de sécurité qui doivent sécuriser des locaux, mais qui doivent faire face aussi à une menace très hostile et très musclée en termes d'armes. On a vu le cas de Radisson. Le jour où Radisson a été attaqué, il y avait des agents de sécurité qui étaient peu outillés pour faire face à la puissance de l'offensive. Donc, des réflexions doivent être en cours pour voir comment tous les acteurs de ce secteur de la sécurité doivent être dotés de moyens de défense. Peut-être que la fabrication des armes au niveau national peut être pensée pour servir à certaines catégories d'opérations de sécurité qui seraient encadrées. Parce que c'est une activité génératrice de revenus, c'est un métier pour des gens. Annuler ça, c'est créer des chômeurs en vrac et c'est augmenter le taux de potentiel individu nocif pour l'équilibre social. Donc je pense qu'il faille, dans ce cadre-là, approfondir les réflexions pour essayer de créer des points de convergence et rendre la chose utile plutôt que nuisible.
D'accord. Votre réaction, M. Corneau ?
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la fabrication artisanale d'armes, c'est l'artisanat comme toute autre activité artisanale. D'ailleurs, il est recommandé à tous les... Il est demandé, pas seulement il est recommandé, il est demandé à tous les artisans de se faire enregistrer à la Chambre des métiers et de disposer d'une carte de membre et aussi de payer une patente d'activité artisanale. Et au mieux, quand ils sont organisés, leur association doit être sous le couvert du ministère de l'artisanat et auquel ils participent aussi à la création d'emplois. Donc le problème n'est pas d'interdire ou pas. Le problème n'est pas que l'activité de fabrication artisanale contribue ou pas. Qu'ils fabriquent ou pas, les armes sont fabriquées ailleurs.
Ouais.
Nous avons 1000 entreprises à travers le monde. On a 1000 entreprises dans 100 pays qui fabriquent des armes. Et ce sont ces armes-là qui sont utilisées aujourd'hui par les groupes djihadistes ou bien les terroristes. Ce n'est pas avec les armes de fabrication traditionnelles. Voilà, et bien d'autres groupes. Donc ça veut dire que c'est une expertise pour moi que le Mali a et qu'il faut plutôt valoriser. Et je crois que tel a été d'ailleurs le plaidoyer qu'a utilisé notre ancien président Alpha Omar Konaré pour amener l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO à inscrire dans la convention de la CEDEAO l'autorisation de la fabrication d'armes. Et seulement, pas seulement des armes traditionnelles, mais c'est des armes légères et de petit calibre. Or, entendez armes légères de petit calibre, toutes les armes, même les Kalach. Donc ça veut dire que dans la convention, il peut fabriquer toutes ces armes-là. Et je crois que ce que le gouvernement, le Mali, a de mieux à faire, c'est de voir comment encadrer, comment exploiter cette expertise-là au sein de nos forces armées et de sécurité, et pour pouvoir peut-être faire la réparation, l'entretien et même, pourquoi pas, la fabrication des armes made in Mali. Ce serait quand même quelque chose pour le Mali.
Carrément.
Moi, je crois qu'il faut plutôt aller dans cette approche pédagogique plutôt que de dire que nous allons interdire la fabrication.
Alors oui, je tenais à informer que ce débat rentre dans le cadre d'un partenariat avec le programme d'engagement civique. Oui. Alors oui, Monsieur Mégali.
Non, c'est juste pour abonder dans le même sens que c'est pas l'interdiction que l'État doit, qu'on doit faire, mais c'est l'encadrement, il est très important. C'est surtout l'encadrement à travers les structures de l'État, bien sûr, pour que les termes qui autorisent cette fabrication soient respectés.
D'accord. Alors, de ce pas, nous allons demander à M. Koné de nous dire plus sur dans quel contexte l'État octroie-t-il les permis de fabrication d'armes.
Les permis de fabrication d'armes sont octroyés après une enquête. Il y a une liste de dossiers qu'on doit fournir et il y a beaucoup de services qui sont impliqués même pour fournir ces dossiers-là. À travers la convention des dossiers, maintenant, on fait une demande. Une demande qui est sous couvert du gouverneur de la localité et adressée au ministre de la Sécurité intérieure. Le ministre de la Sécurité intérieure qui est habilité à donner l'autorisation et à déterminer dans l'autorisation quel type d'arme la personne peut fabriquer. Voilà, généralement, c'est comme ça.
Et en général, quand vous fabriquez ces armes-là, où vont-ils?
Quand on fabrique ces armes, les armes sont vendues à la population.
À la population?
Oui, mais c'est en suivant des règles aussi. Parce que celui, l'acheteur doit obligatoirement avoir une autorisation d'achat et une autorisation d'achat. Après, c'est avec une autorisation d'achat que nous on vend à l'acheteur. À ce moment-là, en tant qu'acheteur, il va aller encore retourner voir les autorités compétentes pour avoir un permis de port.
Mais même si vous faites des enquêtes avant de vendre ces armes-là, ou s'il y a des permis, est-ce que vous ne passez pas par des difficultés ou s'il n'y a pas de risque de revendre de ces armes-là au marché noir?
Bon, vous savez, parce que ceux qui viennent nous voir avec des autorisations d'achat ont déjà aussi été objet d'enquête. Parce que quand tu fais la demande d'autorisation d'achat aussi, c'est une enquête qui est menée autour de toi pour savoir si la personne est habilitée à posséder une arme ou pas. Donc, on suppose que celui qui vient à l'autorisation d'achat, ça veut dire que cette personne a passé par une enquête et que l'État du Mali a décidé qu'elle possède une arme. Donc, nous, on le voit. Mais tout en prenant tous les renseignements nécessaires dans un registre. Et ce registre est signé mensuellement au niveau de la direction de la santé publique ou de l'autorité compétente dans les régions.
D'accord. Oui, M. Corneau, vous voulez...
Oui, je dis qu'en réalité, ce n'est pas la fabrication qui pose problème, c'est la vente qui pose problème. Parce qu'en fait, normalement, après avoir fabriqué, même si vous avez une autorisation de fabriquer, il faut aussi avoir une autorisation de vente. Mais la législation est vraiment très muette par rapport à la vente. C'est-à-dire qu'on fait la séparation entre le fabricant et le vendeur. Or, dans notre société, à quel artisan vous demanderez de fabriquer des outils et puis à une autre personne de vendre? Mais maintenant, l'approche qu'ils utilisent, c'est d'avoir quand même des registres d'enregistrement, d'abord de leur fabrication, aussi d'enregistrement de l'identité de ceux à qui ils vendent ces armes-là. Mais la nouveauté quand même et l'amélioration du processus, c'est le marquage de l'arme. À partir de l'instant où l'arme est marquée et que, en vendant à une personne, toute son identité est dans le registre, dès que l'arme est saisie après un forfait, même si on n'arrive pas à arrêter l'auteur, le fait que l'arme soit marquée, on peut remonter jusqu'au fabricant et ensuite reçoit la traçabilité jusqu'à voir qui a commis. Donc je crois que cette innovation qu'on est en train d'apporter pour pouvoir parer un peu à cette difficulté de fabriquer et ne pas vendre. Mais il faut reconnaître que bien avant le marquage, les armes étaient fabriquées sans être marquées et elles étaient utilisées vraiment par les bandits de grand chemin pour faire des attaques.
Oui, M. Mega.
Je pense que ce qu'on vient de dire rentre dans le cadre d'un système de contrôle. Parce que, comme il le dit dans le temps, les armes étaient fabriquées et vendues dans le marché noir. C'est pour éviter ce marché noir que le gouvernement, à travers le secrétariat permanent, a amené cette innovation de que tout vendeur est un registre, tout vendeur reconnu est un registre de fabrique d'armes et de vente d'armes.
Et en ce qui concerne les vendeurs qui ne sont pas reconnus?
Ça, c'est en ce moment, ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. Tous ceux qui ne sont pas connus et qui n'ont pas de carte, c'est qu'ils sont carrément dans l'illégalité et ils doivent être arrêtés pour tel.
Mais est-ce que ces sanctions-là sont respectées?
Au niveau du secrétaire permanent, on ne parle pas beaucoup de... Nous, c'est surtout l'aspect, respect de la loi, sensibilisation. Maintenant, les services de défense et de sécurité sont tous les jours à pied d'œuvre pour arrêter ces gens qui ne respectent pas la loi en vigueur.
D'accord. Mais vu qu'on a plusieurs textes, plusieurs règlements, comme M. Corneau vient de le dire, il y a beaucoup d'innovations. Mais même avec cela, comment se fait-il que la situation a aussi dégénéré?
Je pense que la situation a dégénéré par tout ce que j'avais dit au début, hein, la porosité de nos frontières, les crises qu'il y a eu successives dans les pays qui nous sont limitrophes ou qui sont à côté des pays qui frontaliers, les rébellions, les différentes rébellions et les différentes crises au niveau de nos camps, et le pillage de tous les commissariats de police de Bamako en son temps, tout ceci a contribué à alimenter le marché d'armes.
D'accord. Oui, M. Duara, allez-y.
Je voudrais juste appuyer ce que le commissaire vient de dire pour préciser que le Mali est entouré par des pays qui ont tous connu des crises. Je pense que même les pays, le Sénégal a une crise, n'est-ce pas?
Casamance.
La Guinée a une crise. La Côte d'Ivoire, tout le monde se rappelle de la crise ivoirienne. Le Burkina connaît plus d'insécurité aujourd'hui que le Mali. Le Niger a connu plusieurs rébellions et aujourd'hui encore gère une situation d'insécurité. Et je rappelle que déjà en 2007, le Niger faisait face à la menace terroriste de Boko Haram qui était mobile entre le Nigeria et le Niger. Et quand on regarde la région de Kayes, elle a toujours été exposée à la circulation des armes en provenance du Sahara occidental. Toute la zone de Yelimane, Nioro, était carrément armée par des armes qui viennent, n'est-ce pas, de la zone qui venait du Sahara occidental, n'est-ce pas? Et quand vous regardez l'Algérie a connu d'abord le terrorisme avant les autres. Ensuite, les histoires des salafistes. Et c'est en fait l'insécurité algérienne qui s'est déportée dans le nord du Mali avec la création de ACMI. Donc pour dire qu'en réalité, la part... Parce que je dis ça pour répondre à quelque chose qui est à tort porté contre le Mali. Je circule beaucoup dans la sous-région et chaque fois, les gens se plaisent à dire que non, le Mali est le maillon faible et que c'est le Mali qui a importé l'insécurité chez eux. En réalité, c'est faux. C'est faux. À tous les coups, tous les actes d'insécurité qui sont dans la situation, il faut dire que c'est les rébellions et l'instabilité dans les autres pays qui a progressivement travaillé sur le Mali jusqu'à ce que finalement, à force de résister, on a lâché. Et aujourd'hui, chacun a le même problème chez lui. Donc c'est vraiment faux quand on dit que c'est le Mali qui crée l'insécurité chez les voisins. C'est vraiment un argument qui ne tient pas du tout et que je pense qu'il faille absolument rejeter et clarifier.
D'accord. Alors, M. Corneau, vous avez parlé des textes nationaux, mais si vous pouvez mieux nous parler des textes internationaux concernant la fabrication des armes.
Oui, je crois que par rapport aux textes nationaux, nous avons... actuellement une loi qu'on appelle la loi de 2004. Donc ça veut dire que de l'indépendance du Mali jusqu'à 2004, la gestion des armes était régie par un texte antérieur même à notre indépendance. Et qui, d'abord, je dis, qui interdisait la fabrication, bien qu'entre cette période-là, pendant cette période, il y a eu des autorisations de fabrication. Mais à partir de 2004, il y a eu un texte et en 2005, il y a un décret d'application. Ce texte, comme le décret d'application, sont aujourd'hui complètement dépassés par l'environnement sécuritaire. Ce texte ne parle que des armes blanches, c'est-à-dire que pour avoir un couteau, pour fabriquer un couteau, pour vendre un couteau, il faut avoir une autorisation du ministère. Vous voyez que ça veut dire que c'est complètement dépassé. Mais il faut reconnaître que, chemin faisant, l'environnement sécuritaire ne s'est pas seulement dégradé au Mali, mais c'est toute la sous-région. Et l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a mis en place une convention qui est encore plus complète que notre texte et qui, cette fois-ci, autorise tous les États de la CEDEAO à la fabrication, mais au contrôle des ALPC. Les ALPC, j'ai dit qu'entendez par ALPC, même des Kalachnikovs, des mitrailleuses lourdes, tous, des revolvers, des pistolets automatiques. Tout ça, ce sont des armes légères de petit calibre. Or, la convention de la CEDEAO autorise les fabricants d'armes locaux à les fabriquer, mais seulement aux États de les contrôler et aussi d'en faire des registres d'abord de fabricants locaux et de faire en telle sorte qu'au niveau de chaque fabricant local, qu'il y ait un registre que les autorités pourront suivre dans la fabrication et la réparation. Donc, il fait que initialement, c'était seulement au Mali, dans la sous-région où la fabrication était autorisée. Mais aujourd'hui, dans les 15 pays de la CEDEAO, sous le leadership encore du Mali, c'est autorisé. Mais on demande aux États de le contrôler.
D'accord. Alors, Monsieur Koné, est-ce que tous les membres de l'association ont connaissance de ces textes-là, que ce soit nationaux et internationaux?
Bon, vous savez que la plupart des membres de mon association sont des analphabètes. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école du colonisateur.
Mais est-ce que des méthodes ont été mises en place pour qu'ils puissent mieux comprendre la situation?
Oui, maintenant, avec l'accompagnement de la commission, on a fait beaucoup d'ateliers. Et ces ateliers sont en train d'être animés maintenant en Bamara pour qu'ils puissent mieux comprendre. Mais il y a tout le monde qui est là. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous, on fait face à une situation qui est quoi? C'est-à-dire, et les fabricants, tout en fabriquant que la police reçoit aujourd'hui, des mains des bandes ou de n'importe qui, automatiquement, on voit, nous, les fabricants d'armes du Mali. Pourtant, il y a des fabricants d'armes aussi dans d'autres pays, comme le Burkina, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et ces armes rentrent au Mali.
Mais vu qu'il y a un registre qui a été mis en place,
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés par ce registre-là. Donc on suppose que, c'est-à-dire que n'importe quelle arme qu'on reçoit, que la police reçoit à travers l'arrestation d'un individu, parce qu'il n'y a pas de marque là-dessus qui montre que c'est fabriqué au Mali, ou bien c'est fabriqué en Guinée, ou c'est fabriqué en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous, on attend avec impatience l'effectivité de la formation par rapport au marquage. Parce que de ce fait-là, on saura réellement tous les armes artisanales qu'on voit au Mali, s'ils sont fabriqués au Mali ou bien s'ils sont d'une provenance. Voilà. Maintenant, par rapport au texte, l'effort a été fait. Beaucoup de gens ont pris conscience avec le texte. Mais il faut encore des formations, il faut encore les expliquer encore. Parce que les premières formations ont été faites généralement en français. C'est les dernières formations qu'on est en train de faire sont en train d'être faites en Bamara. Voilà. Donc, assimiler un texte aussi n'est pas facile, surtout avec quelqu'un qui comprend pas le français. Sinon, la majorité, aujourd'hui, surtout ceux qui ont les autorisations de fabrication d'armes, connaissent les textes.
D'accord. Oui, M. Maïga.
D'accord. J'allais ajouter que, en fait, il y a un problème qui se pose. C'est que l'application de ces textes-là est ignorée souvent même par les services qui sont chargés de les appliquer.
Mais comment cela puisse se passer?
Cela peut se passer, comme Cornion vient de le dire, les textes du Mali étaient des textes très dépassés et insuffisants. Maintenant, il y a la convention de la CEDEAO que le Mali, tous les pays de la CEDEAO qui ont signé cette convention doivent harmoniser leurs textes par rapport à la législation nationale. Le Mali n'a pas encore fini d'harmoniser le texte du Mali par rapport à la convention de la CEDEAO.
Mais pourquoi ce retard?
Bon, ce retard, vous savez, depuis les événements de 2012, il y a tellement de ralentissements dans beaucoup de choses qu'il faut prendre les choses une à une. Et je pense que ce sera fait bientôt.
D'accord. Oui, M. Cornu.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas seulement que les artisans qui ignorent les textes et leur contenu, mais même les services chargés de faire ce contrôle, on a constaté qu'ils ignorent. Nous, dans le cadre de l'élaboration du plan d'action des armes légères 2019-2023, nous avons organisé un atelier dans chacune des régions de Kaye à Kidal. Et au cours de ces ateliers, les participants, c'était vraiment l'administration, les forces de défense et de sécurité. Et le taux de ceux qui... La question a été posée, à savoir ceux qui savent l'existence et le contenu de la législation sur les armes. Et la moyenne est de moins de 5%. de ceux qui le savent. Or, c'était la majorité, c'était des officiers, c'était des préfets, des sous-préfets et des responsables qui sont normalement en charge de faire le suivi, le contrôle et l'application. Qui fait qu'autant il est nécessaire de diffuser ce texte au niveau des artisans, autant il est aussi absolument nécessaire que ceux qui sont chargés de suivre l'application et le contrôle en soient aussi informés et formés. Mmh. Et tout ça, je crois que la commission l'a inscrit dans son plan d'action.
D'accord. Alors, Monsieur Johara, vu qu'il y a tous ces textes-là, en termes de solutions, quelles sont les attentes de la société civile ?
Ben, les attentes de la société civile, c'est principalement de voir le front social plus apaisé. Cela voudrait dire que d'abord, on mette la législation en harmonie avec le contexte actuel. Secondo, qu'on renforce l'encadrement, parce que on le sait, c'est pas un secret au Mali. Hein. Une chose est de faire des lois, une autre est de les mettre en application. Je pense qu'il est important que nous écoutions le langage du sort. Aujourd'hui, le sort nous a suffisamment interpellés au Mali sur notre laxisme, sur notre, j'allais dire, incapacité à nous conformer aux lois que nous nous imposons nous-mêmes. Tant qu'on n'aura pas franchi ce seuil et qu'on n'a pas commencé à être les défenseurs des lois que nous choisissons pour nous-mêmes, eh bien, il ne servira à rien de légiférer. Donc, je pense que c'est là où vraiment la société civile élève la voix pour interpeller davantage. Et nous saluons le travail qui est en train d'être fait par la commission, par le consultant Cornio, qui est un véritable expert en la matière. Et il a fait énormément de travail là-dessus et nous alimentons la plupart du temps des publications qu'il fait. Et donc, c'est bien que l'État, s'accompagne d'expertise nationale de ce type pour pouvoir mieux prendre la voie.
Alors, M. Koné, en termes de solutions, qu'est-ce que l'association des fabricants d'armes compte apporter ?
C'est qu'on a commencé, c'est de conscientiser d'abord le métier que nous-mêmes on fait. On reconnaît que souvent on fait des choses qui ne sont pas normales. Mais il faut, on a avec le central permanent et surtout avec l'appui du consultant, on veut d'abord, on essaie de tout faire pour que le métier là soit bien conscientisé. Et aujourd'hui, on a fait un grand pas par rapport à ça. Maintenant, le second plan, c'est quoi? Ça, c'est un plan de reconversion. Parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont des diplômés, qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont liés dans le métier et qui font ça pour vivre. Ça vaut mieux que d'aller voler. Donc, il faudrait que ce plan de reconversion ait l'appui des autorités pour qu'on puisse diminuer au maximum même la fabrication artisanale annuelle.
D'accord.
Donc, c'est ça.
D'accord. Alors, M. Meiga, en termes de solutions, que préconisez-vous, que préconise la Commission face à cette problématique ?
Face à cette problématique, la Commission préconise l'implication entière de la société civile. Parce que la sécurité n'est pas l'apanage seulement des services de défense et de sécurité. La société civile a un très grand rôle à jouer là-dedans. Et heureusement que, avec les différents ateliers qu'on a eu à faire, et on constate de plus en plus que la société civile adhère à ça. Et comme l'a dit M. Diawara à un moment, les armes, c'est les communautés. Donc si les communautés, la société civile se met à travailler avec nous, à sensibiliser, à savoir que détenir une arme est un danger pour soi-même, je pense qu'on fera un grand pas.
D'accord. Monsieur Cornéon, un mot de la fin ?
Oui, je dis que, en fait, l'arme, c'est le shaitan. Mais le possesseur d'armes est plus que le shaitan. Je crois qu'autant il faut lutter contre la prolifération, l'accumulation des armes, mais autant aussi il faut aussi former et sensibiliser la population par rapport à l'utilisation de ces armes. Parce qu'il faut reconnaître que plusieurs choses se passent aujourd'hui, ce n'est pas que les armes. Quand on voit les derniers événements qui sont passés à Bamako, quand un jeune prend un couteau, tue un imam et puis va se rendre à la police, et ce n'est pas avec une arme de guerre, ce n'est ni avec une arme de feu. quand un soudeur ou au milieu d'apprentis agresse et tue un apprenti de Sotrama, il sait qu'il va être tué, ce n'est pas un problème d'armes. C'est vraiment un problème de société. Okay. Et je crois que c'est toute la société aujourd'hui qui est interpellée par rapport à sa conduite. Et là, et ça pourra aider à encadrer mieux et les fabricants et les possesseurs d'armes.
Merci beaucoup. Et cela me fait à ce débat sur la prolifération des armes. Et ça rentrait dans le cadre du programme d'engagement au civique. Un grand merci à nos invités. El Hadj Youssouf Meïga, du contrôleur de police chargé des armes et des fabricants d'armes au secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. El Hadj Ousmane Cornéo, consultant sur les questions d'armes. Mamadou Diouara, du forum des organisations de la société civile. Alassane Kone, vice-président de l'association des fabricants d'armes. Cela me fait à ce débat. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Noundjiré. La régie est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.